revient à la source. On revient sur notre thème, notre mot d'ordre. Et on va lire ce matin, relire en fait la dernière lettre, la dernière des sept lettres aux églises du Jésus ressuscité. Et on l'a déjà lu, très bien lu, mais ça vaut la peine de relire encore. Et c'est ce que je vais faire, mais d'abord on va prier. Oui, Jésus, merci pour les lettres que tu nous as données et ce livre de l'Apocalypse qui nous guide en cet hiver et qui vient à nous après bien des siècles, mais qui est toujours aussi réel, aussi vivant, aussi pertinent. Nous avons besoin de ta parole, ô Jésus. Parle-nous, donne-nous la force d'ouvrir nos cœurs. Au nom de Christ. Amen. Alors, si vous avez votre Bible, c'est Apocalypse chapitre 3, comme vous voyez, à partir du verset 14, la dernière des sept lettres aux églises, écrit. Apocalypse 3, 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Là, c'est l'ange qui parle au nom de Jésus à Jean. Jean qui est en prison, mais qui va donner sa lettre à un messager, dans le cadre de tous les livres de l'Apocalypse pour le lire à l'église de Laodicée, à toutes les églises. Alors, je recommande. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus ta nudité ou la honte de ta nudité. » ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. La fin de semaine passée, j'étais à Châteauguay, dans une retraite. En fait, c'était la retraite de l'école de théologie, l'ETEC. Et on était à un certain moment 5-6 autour d'une table et on buvait des verres d'eau. Chacun avait un verre d'eau et on discutait de quelque chose. Et une des sœurs, une des dames qui était là, elle avait une bouteille d'eau de source. Elle a dit qu'elle n'aimait pas le goût de l'eau de Châteauguay. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être des habitants de Châteauguay ici. C'est les goûts, on ne discute pas. Elle n'aimait pas le goût. Elle trouvait que ça goûtait le chlore. Moi, je remarquais moins, mais c'est vrai qu'il y avait effectivement du chlore dans l'eau. Et elle est allée s'acheter une bouteille. Cette semaine, en préparant le message, j'ai regardé un peu sur l'Internet sur les usines d'épuration d'eau dans la région. Et il y en a une à Dorval, où j'habite. Puis Dorval, c'est juste de l'autre côté du fleuve par rapport à Châteauguay. Donc, l'eau est prise du lac Saint-Louis. Ça, c'est le fleuve Saint-Laurent, un élargissement du fleuve. Ça doit être la même chose de l'autre côté. Et imaginez-vous que cette usine d'épuration d'eau à Dorval, ils disent qu'ils font quatre opérations sur l'eau avant qu'elle arrive dans votre verre. Alors, premièrement, la flocculation. Je ne sais pas ce que c'est, mais le mot lui-même me fait peur. La flocculation suivie de la décantation. Après ça, il y a filtration. Puis après ça, il y a chloration. Ça, chloration, je comprends. Ils mettent du chlore, qui est un désinfectant. Alors, l'eau est rendue buvable. Et on la boit chez nous, chez les Debani. Nous buvons l'eau. Mais c'est de l'eau quand même, on se rend compte. Elle a été changée par le fleuve. Elle est rendue imbuvable. Et puis, la ville de Dorval la rend à nouveau comestible ou potable par divers processus chimiques et industriels. Mais à l'origine, c'est de l'eau de source ou de l'eau de pluie. Hein? C'est de l'eau qui sort des sources. Elle est pure, elle est froide, elle est rafraîchissante. Elle se rend finalement dans le fleuve ou de l'eau pure du ciel par la pluie. Et elle passe par un processus elle est transformée en quelque chose d'impur. Et cette sœur, elle avait trouvé la solution. Ben, moi, je vais aller me chercher une bouteille d'eau de source qui vient direct de la source. Oui, c'est vrai, voilà. Alors, ça, c'est un autre débat, les bouteilles d'eau de source. Mais ce que je voulais dire ce matin, c'est que revenir à la source, c'est le message. Et c'est le message de notre Sauveur aussi ce matin. C'est le message de toutes les sept lettres dont on a vu quelques-unes déjà. C'est Jésus qui nous lance à nous aussi ce message. Reviens à la source, qui est moi. L'autre chose que je voulais dire, c'est que c'est une lettre qui fait peur. Si c'est la première fois, si jamais il y a un moyen d'enlever le raisonnement du micro. Ah, OK, parfait, excusez-moi. Je n'avais pas besoin de le dire. Merci à vous deux là-bas, là, Christian et Pascal. Oui, c'est une lettre qui frappe fort et qui fait peur. Ce qui est incroyable, c'est que c'est une lettre qui, depuis 2000 ans qu'elle est connue, qu'elle est lue, qu'elle est prêchée, combien de milliers, de millions de personnes ont été rapprochées de l'amour de Dieu par cette lettre. C'est ça qui est étonnant. Et entre autres, ce verset, « Je me tiens à la porte et je frappe », qu'on a vu, et qui a été dans ma vie vraiment un moment clé. La première fois que j'ai entendu ce passage, j'ai compris qu'il fallait que j'ouvre la porte à Jésus et ça a joué un impact dans ma vie pour ouvrir mon cœur au Seigneur. Et c'est pour dire que parfois, souvent même, quand Dieu vient avec nous, vient à nous avec une certaine dureté, c'est pas parce qu'il nous aime pas, c'est parce qu'il nous aime. Cette lettre aux Laodicéens, elle contient les deux bras de Dieu, le bras de la vérité, le bras de l'amour, et Dieu vient nous embrasser, vient nous inviter dans l'amour, dans son amour à travers elle. On note dans cette lettre plusieurs marques d'amour, malgré qu'elle est dure et qu'elle fait peur. Les deux viennent ensemble. Alors, on voit par exemple, hey, les Laodicéens, je suis en train de vous reprendre, mais je reprends et je corrige ceux que j'aime. C'est parce que je vous aime. verset 19. Verset 20, « Je me tiens à la porte et je frappe. » On remarque que Jésus ne défonce pas la porte. Hein? Ce n'est pas un conquérant qui s'impose comme les empereurs romains. Jésus, c'est un roi, un empereur qui frappe à la porte. Et donc, son règne est tellement plus puissant parce qu'il est toujours, quand il règne quelque part, c'est parce qu'on l'a invité, c'est parce qu'on a compris que c'est lui le boss et qu'on le veut comme boss. Il nous rassure parce qu'il dit que le retour à la source est toujours possible. Mais par ailleurs, il nous rassure parce que les moyens qu'on a besoin pour revenir à lui, pour se repentir, il nous les offre, il nous les donne. Il dit, viens dans mon commerce et achète mon or, achète mes vêtements, achète mes médicaments. Et c'est lui qui les donne. Il est fiable, il nous donne les ressources. Et finalement, son but ultime, c'est tellement plein d'amour. Il nous dit qu'il veut qu'on s'assoie sur son trône avec lui. Son trône, c'est un petit peu comme si ton papa, c'était un pilote d'Air Canada. Et puis, il te dit, « Hey, ma fille, tu sais, la fin de semaine prochaine, tu vas venir dans l'avion avec moi, puis je t'invite dans le cockpit, tu vas t'asseoir avec moi sur mes genoux, on va piloter l'avion ensemble pour aller à Cancun. » Est-ce que c'est pas... c'est un peu dans ce sens que Jésus nous invite à vraiment participer à ses privilèges. Et il y a plus que ça aussi, parce qu'il dit ailleurs qu'on va avoir notre propre trône aussi. Mais en tout cas, soyons assurés que Jésus vient à nous, oui, avec une certaine dureté, mais c'est dans son amour, c'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il veut partager l'éternité avec nous. Alors, cela étant dit, il y a un problème à Laodicée. Un problème à corriger qui est plutôt dramatique. Et ça peut être mon problème ce matin, ça peut être ton problème aussi. Et c'est donc avec beaucoup d'humilité et de silence dans le cœur qu'on va écouter ce matin, lutter avec cette lettre. Parce que le problème des Laodicéens est différent des autres lettres qu'on a vues. On a vu que les Éphésiens, eux, ils avaient du zèle, mais ils avaient perdu l'amour. C'était comme un zèle aveugle, un zèle humain. On a vu une autre lettre, c'était Philadelphie, puis eux, il y avait une question d'erreur doctrinale. Mais en fait, ils résistaient plutôt bien à l'erreur doctrinale. Leur vrai problème, c'était simplement qu'ils avaient besoin de persévérer, de se sentir capables de persévérer. Ici, c'est autre chose, c'est la fausse sécurité. Les Laodicéens, à cause de leur propre capacité, ils avaient une fausse vision d'eux-mêmes. Une vision d'eux-mêmes, confiante en eux-mêmes, qui les déconnectait de la source qui est Christ. Et comme c'est un danger qui nous guette, nous, aujourd'hui, c'est important qu'on lise cette lettre ce matin, qu'on en parle. Par cette lettre, Jésus t'invite toi aussi, toi, chrétien ou simplement citoyen de Montréal de 2019, qui que tu sois, Jésus t'invite à te repentir, à renoncer à toute fausse image de toi-même, puis à revenir à la source, à te reconnecter direct avec Jésus. Dans cette lettre, Jésus, qui est un bel écrivain convaincant, qui ne mâche pas ses mots, il tisse dans la lettre trois fibres, on pourrait dire. trois fibres qui rendent la lettre très percutante. Premièrement, il va faire allusion à la situation spéciale des Laodicéens et de l'Église qui est à Laodicée. Il évoque leur contexte pour toucher leur cœur. Deuxièmement, il donne trois images qui vont transpercer leur fausse vision d'eux-mêmes. Et troisièmement, il donne une invitation à une vraie relation. Alors, allons-y pour voir ces trois fibres qui sont tissées comme dans une belle tapisserie, comment on appelle, les tapis qu'on met sur les murs, là, les tapisseries, oui, une belle tapisserie. Première fibre, ben, c'est la situation spéciale de Laodicée. Voici une image de Laodicée aujourd'hui. Il ne reste plus rien, sauf des vestiges. Mais Laodicée, à l'époque, était une ville très riche, prospère économiquement. On nous dit qu'elle avait des banques. Elle avait un tribunal régional important. Elle avait une industrie du textile et du vêtement. Et paraît-il qu'on produisait de la laine noire dans cette région de l'Asie mineure. On faisait des habits noirs qui étaient célèbres. Elle avait aussi une école de médecine. Et aussi, elle produisait donc en lien avec ça, des médicaments qui étaient bien, qui étaient bons et qui étaient connus. Et c'était une ville tellement prospère que lors du tremblement de terre qui a eu lieu en l'an 60 après Jésus-Christ, la Odyssée, elle s'est reconstruite elle-même. Puis l'Empire a dit, est-ce qu'on vous offre de l'aide financière pour reconstruire? Ils ont dit non, on est capable par nous-mêmes et ils ont reconstruit par eux-mêmes. Ville autosuffisante et fière de l'être. Peut-être un peu comme Montréal. C'est sûr qu'on aime aussi de l'aide financière. Mais on est très fiers de nos accomplissements comme ville. Donc, je crois qu'en quelque part, et on va voir que les Laodicéens, il semble qu'ils se laissent influencer dans leur façon de voir Dieu par leur réputation de ville, par leur culture de ville. Alors, voyez, on avait montré la dernière fois aussi une carte, voici une carte semblable, et merci à Cheryl qui m'a aidé à trouver les bonnes images. Et alors, on a dit que, voilà, les sept lettres, c'est les sept villes dans l'arc qui est là. Et deux détails que je voulais vous dire, c'est que, donc, Laodicée est riche parce qu'elle a été construite, il y a un carrefour de route commerciale ici. Donc, voilà qui a été le succès de Laodicée. Elle est au carrefour des grandes routes que les Romains avaient construites. Par contre, les autres villes sont proches des cours d'eau. Et le problème de Laodicée, c'est l'approvisionnement en eau. On va prendre note de ça. Et voyez-vous, juste remarquer ces deux villes ici, Hiérapolis et Colosse. Deux villes pas mentionnées dans le livre de l'Apocalypse, mais qui sont mentionnées. Colosse, c'est une ville où il y avait une église parce qu'il y a un livre du Nouveau Testament qui est une lettre aux Colossiens. Et Hiérapolis est mentionné dans d'autres écrits plus tard. Donc, il y avait des églises là, mais c'était des villes plus petites, mais qui avaient vraiment des bonnes sources d'eau. On va en reparler parce qu'elles sont proches de Laodicée. Mais revenons à ce problème de l'autosuffisance matérielle qui va colorer ta manière de voir les autres humains, mais elle peut aussi nous amener à nous tromper dans notre relation avec Dieu. Pour Jésus, la situation est rendue grave. Ce sont des chrétiens, mais Jésus n'a rien de bon à dire sur leur foi, sur leur service de lui. Ça c'est vraiment, c'est terrible. C'est la seule lettre où il n'y a rien de positif. La seule chose positive, c'est que Jésus leur dit « Je vous aime encore ». Jésus leur dit « Tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien et tu ne sais pas ». Puis littéralement, c'est écrit « Que c'est toi le malheureux, le misérable, le pauvre, l'aveugle et le nu ». Des fois, quand on se sent fort, moi, je suis celui qui a les ressources, puis je vais t'aider toi, qui es le malheureux. Puis Jésus est en train de dire à cette église, c'est toi le malheureux. C'est toi qui aurais besoin de voir, peut-être dans les autres, la source d'aide. Et je dois vous dire que j'ai vu ça parfois. Dans le monde de la mission, j'ai déjà travaillé pour les GBU, qui est une fédération de mouvements chrétiens nationaux, des mouvements d'étudiants. Et donc, il y a un mouvement pour chaque pays. Et c'est vrai que parfois, les pays qui ont un mouvement très riche, qui a beaucoup de ressources. J'inclus le Canada dans cette liste, malheureusement. Mais c'est comme, sans s'en rendre compte, on avait cette attitude, bien, nous, on est là pour aider les malheureux, les mouvements de pays plus pauvres ou les mouvements qui peut-être viennent de pays riches, mais il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Et c'est faux, c'est faux. C'est souvent les mouvements plus pauvres qui ont le plus à apprendre aux pays, aux églises, aux mouvements les plus riches. Ça, c'est la logique de Jésus qui souvent tourne les choses à l'envers. Mes amis, la richesse et le succès matériel ont facilement cet effet trompeur de nous faire penser, si Dieu nous a donné ces choses, c'est parce qu'on est des bonnes personnes. C'est parce qu'on est approuvé de lui par le fait de notre richesse elle-même. Puis ça, c'est un mensonge et c'est dangereux pour notre vie spirituelle parce qu'on peut devenir à ce moment-là dépendant sur nous-mêmes et non sur lui. Il y a des églises locales si prospères et nombreuses, si bien organisées dans leur système, si nanties dans leurs ressources, qu'elles poursuivent leurs activités par leur propre force, pensant que c'est parce qu'elles sont bénies de Dieu. Mais semble-t-il, Jésus, ils l'ont mis à la porte. Il est dehors, puis il frappe. Comme, pouvez-vous imaginer, c'est presque comique, imaginez une église qui est en train d'adorer Jésus, puis Jésus, il est dehors à la porte. Puis, oh, est-ce que je peux entrer, s'il vous plaît? C'est tellement tragique que c'est presque comique. En tout cas, c'est pas juste des jokes que Jésus nous dit ici. Il nous parle d'une réalité que je prie qu'on l'oublie jamais. Et les conséquences sont éternelles. Si nous, on prêche où on vit un genre de christianisme d'autosuffisance, bien, c'est ça qu'on va enseigner. Et les gens qui vont venir, qui vont nous écouter, vont être trompés par un faux évangile. Et c'est pour ça que Jésus veut nous réveiller, si nous sommes dans cette situation. Comme les chrétiens de l'Apocalypse qui sont attaqués de toutes parts. Parfois, c'est la persécution. Parfois, c'est des fausses doctrines qui viennent en dedans. Mais c'est toujours, en quelque part, la pression du monde extérieur qui nous demande de plier, qui nous demande de changer notre attachement pur à Jésus. Puis notre foi devient déformée. Et aujourd'hui aussi, est-ce qu'il n'y a pas des voix dans nos vies qui nous invitent à mettre de l'eau dans notre vin ou de l'impureté dans notre eau? Parce que, en quelque part, on a besoin d'être accepté. Toi, tu as besoin de te sentir accepté. Puis, c'est Jésus qui vient à toi pour te dire, « C'est moi, je veux que tu te satisfasses de mon acceptation. » Mais il y a d'autres voix qui viennent te dire, « Non, écoute-moi plutôt. » Et on tombe dans ce panneau. Il faut que ta compagnie soit la meilleure à Montréal dans ton domaine. Mais pour quelle raison? Il faut que cette année, je sois sur la liste du doyen à l'université. Hey, il faut que tu fasses telle chose pour devenir populaire. Il faut que je sois invité à telle fête, à tel mariage. Il faut que je me conforme à l'image que mon avocat d'immigration exige de moi. En soi, toutes ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais c'est quoi l'approbation que je désire le plus? Si ce n'est pas celle de Jésus, je suis en danger. Bon, on va continuer. On va aller à la prochaine fibre. Jésus va prendre trois images qui viennent du contexte. Donc, les Laodicéens connaissent bien ces choses. Et Jésus veut transpercer la fausse vision qu'ils ont d'eux-mêmes. Premièrement, la source d'eau. Comme j'ai dit, Laodicée avait été construite proche des routes et non pas proche des sources d'eau. Dans la ville voisine d'Hierapolis, il y avait des sources d'eau qui étaient très, très bonnes et l'eau était très chaude. C'est une eau qui avait un effet médicinal. Elle faisait du bien pour le corps et pour certaines maladies. Elle contenait de très bons minéraux aussi. Et dans l'autre ville voisine que j'ai mentionnée, Colosse, c'était des sources d'eau très, très froides, qui étaient très bonnes à boire. Et quand il faisait chaud, quoi de mieux que de boire de l'eau de Colosse pour se rafraîchir? Une eau aussi bien minéralisée. L'eau à Laodicée, par contre, elle venait de loin, approvisionnée par aqueduc. Et elle arrivait tiède, soit d'une source d'eau chaude, mais refroidie par la pierre des aqueducs. C'était comme des genres de tuyaux, puis que l'eau se refroidissait, puis en plus, ramassait du limon, donc des impuretés qui faisaient qu'elle arrivait tiède et elle arrivait un peu dégueu. C'est-à-dire qu'il fallait la traiter encore pour la boire. Il paraît que les médecins de Laodicée utilisaient cette eau-là pour faire vomir les patients s'il y avait besoin de purge de l'estomac, des choses comme ça. C'était des choses connues dans la ville où l'eau froide qui venait devenait tiède par les tuyaux et remplie de ce limon dégueu. Et donc, vous comprenez un peu où est-ce que Jésus s'en vient ici? Il dit que soyez soit de l'eau froide, soyez soit de l'eau chaude, mais ne restez pas une eau tiède. Ne soyez pas une eau loin de la source. C'est un appel à revenir proche de la source, un peu comme cette dame qui avait été achetée de l'eau de source. Je ne me contente pas, Jésus, je n'accepte pas que mes enfants soient de l'eau tiède et désagréable à boire. Reviens à la source, remplis-toi de moi-même. il ne faut pas se contenter. Il y a un commentateur qui a dit, professer la foi chrétienne tout en demeurant intouché par son feu, c'est un désastre. Professer la foi chrétienne tout en demeurant intouché par son feu, c'est un désastre. Donc, c'est là où Jésus dit, tu ne peux pas t'enflammer par toi-même, reviens à moi, reviens à la source. La deuxième image que Jésus utilise, c'est les productions locales. Jésus, il dit, achète de moi de l'or. Les banques de Laodicée étaient remplies d'or. Jésus dit, mais viens plutôt chez moi acheter de l'or pur, purifié par le feu. Parce que l'or que Christ donne, ce n'est pas quelque chose qui va nécessairement t'enrichir dans ton compte en banque. Mais c'est que ça va te remplir de lui-même. C'est son caractère, c'est toute sa richesse qui va venir en toi. Hein? La vie chrétienne, c'est inviter Christ à venir vivre sa vie en moi. Et avec ça vient sa richesse, sa pureté. Et en fait, apprendre à renoncer à l'ancien moi, c'est pour lui donner de la place. Vivre sa pureté, sa beauté. Il est vraiment de l'or. Deuxièmement, l'autre produit local, les vêtements, mais ici, c'est des vêtements blancs, hein, alors que Laodicée avait des vêtements plutôt foncés. Lui, il vend des vêtements blancs. Et dans l'Apocalypse, c'est expliqué c'est quoi les vêtements blancs, parce que c'est un sujet qui revient. Apocalypse 7, versets 13 et 14. Il y a un ange qui explique à Jean. Il voit des robes blanches et l'ange lui dit, « Ceux qui sont habillés d'une robe blanche viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. » Alors ça, c'est une drôle d'image. C'est comme si tu avais une machine à laver, tu avais ton bac ou ta corbeille de linge blanc, mais qui doit être lavé, tu le mets dedans et ton détergent, c'est le sang de Christ. C'est du sang. Puis ce sang rend ton linge blanc, éclatant, pur. Moi, j'ai trouvé ça pas beau comme image quand quelqu'un m'a raconté ça, mais ça m'est toujours resté dans la tête. On a besoin du sang de Christ, de son sacrifice sur la croix, de sa souffrance pour être purifié, pour porter la robe blanche. Et parfois, ça prend des tribulations pour s'en souvenir, pour vraiment laisser tomber mes propres moyens et vraiment revenir à la croix. Et l'autre explication pour la robe blanche, c'est Apocalypse 19, 8. Il a été donné à l'épouse de l'agneau de s'habiller d'un fin lin éclatant, blanc et pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les saints, ça veut dire les chrétiens, tout simplement. Ceux, c'est pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils ne le sont pas, ils se sont tournés vers Christ. Et ils sont devenus saints par leur connexion à lui. Et c'est lui qui, en vivant en eux, leur donne des bonnes œuvres. Hein? C'est lui à chaque jour qu'on prie. C'est ce que j'essaye de faire du mieux que je peux. Jésus, je ne suis pas capable. Jésus, toi, tu sais d'avance les bonnes actions que je peux faire aujourd'hui. Alors, guide-moi dans ces bonnes actions-là. Et que ce soit toi qui les fais avec moi et en moi. Hein, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Tout ça, c'est relié à ce que Jésus a fait pour nous. Et le troisième produit local, c'est l'onguent pour les yeux. Encore une fois, c'était une ville qui produisait des médicaments, un peu comme Montréal. Hein, il y a plusieurs compagnies pharmaceutiques. Parfois, les noms sont difficiles à prononcer, mais ils sont là et la Odyssée produisait. Mais Jésus dit, non, mais viens dans mon magasin acheter mon onguent pour les yeux parce que tu es aveugle. Tu es aveugle et il faut que tu me vois moi. Il faut que tu me vois moi. C'est la parole de Jésus enlève la maladie de nos yeux, une maladie d'orgueil, pour qu'on le voie lui, pour qu'on puisse voir notre besoin, puis qu'on puisse marcher dans la vérité et la lumière. Jésus a dit aux pharisiens, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons, ainsi votre péché demeure. C'est un contexte où Jésus venait de guérir un aveugle. Et Jésus dit aux chefs religieux de l'époque, vous aussi, vous êtes aveugle et vous avez besoin de moi. La troisième image, Jésus est à la porte de la maison. Et je vais tout de suite aller à la dernière fibre qui développe cela. Jésus invite à une vraie relation. Ça, c'est ce verset qui dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est une invitation à l'amour. Dans le Cantique des Cantiques, qui est un livre de l'Ancien Testament, qui est une célébration d'un fiançailles, mariage, c'est une belle histoire d'amour et qui est dans la Bible et Jésus, ici, se réfère un peu à cette histoire parce qu'à un moment donné, il y a l'époux qui frappe à la porte de la mariée. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. Et la mariée se réveille. Elle dit, « J'étais endormie, mais mon cœur veillait. C'était la voix de mon bien-aimé. Il frappe. Ouvre, ma sœur. Ouvre, mon ami, dit le marié. Ouvre, ma colombe, ma parfaite. » car ma tête est couverte de rosée. Je ne sais pas pourquoi, mais il a dormi dehors, puis là, il veut revenir, et il dit, « Ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttelettes de la nuit. » D'après moi, il aurait dû rester avec elle. Il a passé la nuit dehors, il vient, et elle se réveille, elle a hâte de le voir. C'est l'époux qui frappe à la porte. Et ici, Jésus, il fait référence à ça. Il aime son Église, il aime l'Oasis, il aime la Odyssée, mais quand on a fermé la porte, il veut rentrer, c'est l'époux, puis on a de la misère à ouvrir la porte. Oh là là, vous savez, moi, je suis un Laodicéen, peut-être que tu es comme moi. J'ai toujours eu de la misère à ouvrir la porte à Christ, mais je sais que c'est ça que je dois faire à chaque moment. J'ai deux petites histoires à vous raconter. Donc, première histoire, c'est quand je ne connaissais pas encore la marche avec Christ, la vie avec Christ, puis j'avais mes propres plans pour ma propre vie. Je commençais mes études d'ingénieur à l'Université d'Ottawa et j'étais quand même malheureux à l'intérieur de moi. Puis un ami chrétien est venu m'expliquer l'Évangile. Et ensuite, il m'a lu Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Il m'a demandé, « La porte, Marc, ça signifie quoi pour toi? » Puis là, j'ai tout compris. Autant j'avais peur de Dieu, autant ça m'avait complètement bouleversé qu'il frappait à ma porte. J'ai dit, « Mais c'est la porte de mon cœur. » Puis là, l'ami qui me parlait, il dit, « Mais est-ce que tu veux l'ouvrir? Puis j'ai dit, oui. Bien, je voulais dire non, mais je n'étais pas capable. C'est comme si mon cerveau disait, dis non, puis c'est sorti, oui, oui, oui. C'est l'Esprit-Saint qui touchait mon cœur. Et là, il a dit, mais veux-tu l'ouvrir maintenant? Puis encore une fois, je voulais dire non, mais je ne pouvais pas. J'ai dit oui. Puis là, il dit, bien, garde, prie avec moi. J'ai prié avec lui, puis j'ai invité Jésus, puis j'ai senti quelqu'un, quelque chose, quelqu'un entrer en moi. Ma vie a pris une nouvelle direction. Et ma deuxième histoire, c'est 10 ans plus tard, parce que j'avais travaillé comme ingénieur, mais j'avais commencé aussi à prendre des cours de théologie. Et j'étais de plus en plus impliqué dans mon église locale. Et je ne sais pas, le Seigneur me travaillait. Puis être ingénieur, ce n'est pas mauvais. C'est juste que qu'est-ce qui est bon, c'est faire qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire. Et lui, dans mon cas, moi, il voulait que je fasse un changement au niveau de mon occupation. Et 10 ans plus tard, j'étais dans une entrevue d'emploi dans une compagnie où ils m'ont fait savoir que j'étais la personne qu'ils voulaient pour la job. Et ils me posaient des questions, j'essayais de montrer mes connaissances techniques. Puis là, ils m'ont demandé, il y avait deux gars en face de moi, deux ingénieurs seniors en face de moi, puis il y en a un qui me demande, « Puis c'est quoi ta passion, Marc? » Puis, c'est comme si le Seigneur Jésus frappait à ma porte. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, mais moi, ma passion, c'est l'Église de Jésus. C'était une compagnie de télécom. Puis là, c'est comme leurs yeux, vraiment, elles se sont ouverts gros. Mais ils étaient curieux. Explique! Alors, j'ai commencé à leur parler de mon Église, et puis de l'évangélisation, puis qu'il y avait un mouvement mondial, et puis que Jésus était en train de toucher les gens. Puis là, c'est comme... L'entrevue d'emploi a pris une direction. Et puis, finalement, j'ai compris, comme après l'entrevue, que la job, je ne la voulais pas. Il fallait que j'arrête de... Parce que, j'avais un pied dans le ministère, mais je voulais garder ce que j'avais acquis au niveau de l'ingénierie. Et j'ai compris, le Seigneur frappait à ma porte. Le Seigneur, il dit, bon, ben là, je veux passer de la cuisine au salon ou que sais-je. Et je les ai appelés, j'ai dit, non, la job, je ne la veux pas. Et il faut que je m'inscrive pour une autre année de théologie, puis à temps plein. Puis finalement, j'ai fait une maîtrise cette année-là. Peu importe, Jésus, il continue de frapper à ma porte. Jésus, il continue aussi de demander plus de place dans ma vie. Puis dans ta vie aussi, je ne dis pas que tu vas devenir un pasteur comme moi, mais j'espère que dans notre vie, à chacun, tu vas donner la première place à Jésus. Et que c'est sa voix, son approbation que tu vas vouloir et seulement la sienne. Puis il va s'arranger avec le reste, y compris les jobs, y compris ta citoyenneté au Canada et toutes les autres choses avec. Prenons un moment pour prier. Prenons un moment et vraiment, c'est 100 façons. On vient humblement, on est tous des Laodicéens ce matin. Si tu veux venir en avant, qu'on prie pour toi, tu as juste à venir. La prière des Laodicéens, c'est vraiment le drapeau blanc. Hein? Je capitule, Jésus, je te donne le contrôle, je te donne la place. Tu peux rester à ta place, tu peux te mettre à genoux, tu peux te mettre debout. On va prier. Et si les musiciens voudraient venir... Pourquoi pas faire de la musique pendant cette période où on va prier? Je vais prier, mais d'autres aussi peuvent élever la voix.